Europa, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 10 juin 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, la France annonce une réduction de l'opération Barkhane. Son ministre des Affaires étrangères inaugure en Côte d'Ivoire une académie de lutte contre le terrorisme. En Centrafrique, démission du gouvernement. Les Algériens, eux, se rendent aux urnes samedi pour des élections législatives anticipées en pleine contestation du mouvement Irak. Lutte contre le Covid, le président Biden promet 500 millions de doses du vaccin Pfizer aux pays pauvres. À suivre également dans cette édition d'information, la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président français Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. Au cours d'une conférence de presse, le chef de l'État français a annoncé la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Le point avec Eric Manirakiza.
La transformation de l'opération Barkhane au Sahel va passer par la fermeture de bases de l'armée française et par la priorité donnée à la lutte contre les djihadistes par les forces spéciales, a annoncé jeudi Emmanuel Macron. La lutte contre le terrorisme sera faite avec des forces spéciales structurées autour de l'opération Takuba, avec évidemment une forte composante française, avec encore plusieurs centaines de soldats et des forces africaines, européennes, internationales, qui aura vocation à faire des interventions strictement de lutte contre le terrorisme, a-t-il précisé. Malgré le déploiement de milliers de militaires des armées nationales et étrangères, les massacres de civils se poursuivent au Mali, au Niger et au Burkina Faso. La France a suspendu ses opérations conjointes après le récent coup d'État au Mali. Monsieur Macron a posé comme condition à la reprise des opérations militaires mixtes avec les forces maliennes des engagements clairs des autorités de transition à ne pas dialoguer avec les djihadistes. Enfin, il a déploré que la CEDEAO ait reconnu le colonel Assimi Goïta comme président de la transition au Mali après un deuxième putsch, y voyant une mauvaise jurisprudence pour l'Afrique et une erreur.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a estimé aujourd'hui à Abidjan que le fléau du terrorisme n'est pas une fatalité en participant à l'inauguration en Côte d'Ivoire de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme AILCT. Le chef de la diplomatie française était aux côtés du premier ministre ivoirien Patrick Hachi et de son ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara. Jean-Yves Le Drian a précisé que l'AICLT devrait accueillir et former des policiers, des militaires, des gendarmes, des magistrats ou encore des douaniers et personnels des administrations pénitentiaires. Au Niger, 3 policiers et un gendarme ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque de bandits armés contre une patrouille en plein désert près d'Assamaka, une ville nigérienne abritant un poste de contrôle près de la frontière avec l'Algérie. L'information a été confirmée par AIR Info, un journal en ligne de la région. Les conflits liés à l'accès aux ressources dans le nord du Bénin se sont accentués et risquent d'être exploités par les groupes extrémistes présents dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, s'alarme dans un rapport le centre de réflexion néerlandais Klingendael. Selon ce groupe de réflexion international renommé et spécialisé dans les questions de sécurité, les conflits communautaires au Bénin risquent d'être exploités par ces groupes extrémistes et il existe un risque de débordement de la violence du Sahel au Bénin. La Cour d'appel de Conakry a condamné ce jeudi l'opposant Oumar Sylla alias Fonike Mangé à 3 ans de prison ferme. Il était poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal lors du grand mouvement de contestation contre un troisième mandat du chef de l'État guinéen. Oumar Sylla était détenu depuis près d'un an à Conakry. Les avocats de M. Sylla ont indiqué qu'il introduirait un pouvoir en cassation devant la Cour suprême. En République centrafricaine, le premier ministre Firmin Ngrebada a remis aujourd'hui sa démission et celle de son gouvernement au président Touadéra. Démission attendue depuis plusieurs mois, c'est donc le point de départ de la formation d'une nouvelle équipe. À Bangui, retrouvons notre correspondant Freeman Sipila.
La démission de Firmin Ngrebada et de son gouvernement met fin à une série de tergiversations depuis plusieurs mois. Cette démission était attendue depuis la réélection du président Faustin Archange Touadéra en janvier et sa prestation de serment le 30 mars dernier. La constitution de la République centrafricaine n'impose pas la démission d'un premier ministre et de son gouvernement après la réélection d'un chef d'État, répondait Firmin Gribada à ses détracteurs qui l'accusaient de vouloir s'accrocher au poste. Maintenant, tous les ministres quittent leurs fonctions en attendant la formation d'une nouvelle équipe. Firmin Gribada s'est réjoui d'avoir servi le président Touadéra et son pays. Tout en vous renouvelant ma loyauté et fidélité, je reste et demeure à votre disposition pour toute mission en lien avec la poursuite de la reconstruction de la République centrafricaine, a conclu celui qui est devenu ancien Premier ministre. Le gouvernement démissionnaire est né suite à l'accord de paix entre Bangui et 14 groupes armés le 6 février 2019. Cette équipe finit sa mission dans un contexte de brouille avec la France, l'ancienne puissance coloniale. Frimansi Pila, Bangui, pour VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef d'une milice accusé d'avoir tué ces trois dernières années 19 gardes du parc national de Virunga a été arrêté. Marius Munga.
Il a fallu 6 mois d'enquête et des filatures pour procéder à l'arrestation le 8 juin au matin de Jackson Mouhou Kambuto, chef de groupe armé Mai Mai Jackson. C'est l'un des multiples groupes armés qui opèrent dans les parcs nationaux Virunga, a déclaré Emmanuel Demeraude, directeur de ce parc. Il estime que Jackson Mouhou Kambuto, qui a été arrêté non loin de Butembo dans le Nord Kivu, est directement responsable de la mort des 19 gardes ces trois dernières années. Il a ajouté que ces hommes sont aussi soupçonnés d'avoir tué de nombreux civils et membres des forces armées. En 12 mois, 21 éco-gardes ont été tués dans des affrontements avec des groupes armés qui occupent ces sanctuaires des gorilles de montagne, la plus ancienne réserve naturelle du continent.
La justice italienne a ouvert une enquête contre un fonctionnaire congolais du PAM, le Programme alimentaire mondial, après la mort en février de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo lors d'une attaque contre un convoi du PAM. Selon les médias italiens, il s'agit d'un fonctionnaire de l'agence onusienne dont le siège est à Rome, qui s'est occupé des mesures de sécurité lors de ce déplacement et est soupçonné de violation du protocole de sécurité. L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est décédé le 22 février après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du Programme alimentaire mondial dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade dans la province du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Élections législatives anticipées en Algérie ce samedi, 24 millions d'Algériens se sont appelés à élire 407 députés pour un mandat de 5 ans. Le point avec Abdourahman Dia.
Les électeurs doivent choisir parmi près de 1500 listes dont plus de la moitié s'affichent comme indépendantes. C'est la première fois qu'un nombre aussi élevé d'indépendants se présente. La participation est le principal enjeu de ce scrutin. Les taux d'abstention lors de la présidentielle de 2018 et du référendum de 2020 étaient extrêmement élevés, respectivement 60 et 76%. À l'issue d'une campagne électorale sans public pour cause d'épidémie, les partis pro-gouvernementaux et les médias officiels ont appelé à participer en force à ce scrutin crucial pour la stabilité du pays. Les Algériens de la diaspora en France ont commencé à voter ce jeudi où plus de 700 000 électeurs sont inscrits. L'ambassadeur algérien Mohamed Antar Daoud s'est rendu au consulat parisien pour voter sous haute sécurité. Il a assuré qu'il y avait un engouement pour ces élections de l'Algérie nouvelle.
Des manifestants ont bloqué plusieurs rues à Khartoum ce jeudi pour protester contre l'annonce cette semaine de la suppression des subventions sur les carburants qui a doublé les prix de l'essence et du diesel. Le Soudan a mis fin mardi à ses subventions sur les carburants dans le cadre des réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international FMI, doublant le prix sur fond de crise économique profonde. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mardi prochain une réunion à huis clos sur le conflit au Tigré. Cette nouvelle réunion se tiendra de manière informelle en raison de l'opposition de l'Éthiopie. La réunion a été programmée alors qu'un communiqué du Programme alimentaire mondial aujourd'hui affirmait qu'au moins 4 millions de personnes souffrent de la faim dans cette région, dont 350 000 sont en situation de famine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont dépenser 3,5 milliards de dollars pour acheter et donner 500 millions de doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus à certains pays pauvres. L'annonce a été faite par le président Joe Biden, qui participe au sommet du G7 en Angleterre. Yacouba Ouedraogo.
Nous voulons vraiment souligner qu'il s'agit d'un objectif singulier de sauver des vies, a déclaré un haut responsable de l'administration Biden, ajoutant que Washington ne cherche pas de faveur en échange des doses. D'après la Maison-Blanche, ces nouveaux dons s'ajoutent aux 80 millions de doses que Washington a promis d'ici fin juin et aux 2 milliards de dollars affectés au programme COVAX. Pfizer, le fabricant américain de médicaments, et son partenaire allemand BioNTech ont promis de livrer 200 millions de doses en 2021 et 300 millions au premier semestre 2022. L'administration Biden dit s'attendre à ce que les autres membres du G7 apportent des contributions pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. Joe Biden a soutenu les appels à une renonciation à certains droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, mais il n'y a pas encore de consensus sur la manière de procéder.
À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Dans un rapport conjoint, l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF estiment que 160 millions d'enfants étaient forcés de travailler en 2020, soit 8,4 millions de plus en 4 ans. 79 millions occupaient un travail dangereux, soit 6,5 millions de plus qu'en 2016. 70% sont exploités dans l'agriculture, 20% dans les services et 10% dans l'industrie. L'Afrique subsaharienne a vu la plus forte hausse. Le Fonds monétaire international a approuvé le déboursement immédiat de 772 millions de dollars en faveur de l'Angola. L'institution autorise le versement de cette dernière tranche d'un crédit total de 3,7 milliards accordé en 2018 pour des réformes économiques et une amélioration de la gouvernance. Le Fonds a aussi approuvé une extension du moratoire du service de la dette du pays jusqu'à fin décembre. En 2020, la planète a produit 1 million de tonnes de plastique de moins qu'en 2019 en raison de l'impact de la crise sanitaire. 367 millions de tonnes contre 368 l'année précédente, selon l'Association européenne des producteurs de plastique. Il s'agit de la troisième baisse mondiale après celle de 1973 et celle de 2008, indique Plastics Europe.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Athlétisme pour commencer. La Burkinabé Marthe Yasmine Kouala fait parler d'elle à Marseille en France. L'athlète d'heptathlon s'est imposée au 100 mètres haies en 12 secondes 99. Elle a devancé les Françaises Sacha Alexandrine 13-32 et Laetitia Bapt 13-41. Marthe Kouala bat du même coup son propre record national en heptathlon. Elle gagne 12 unités de plus et totalise désormais 6250 points. Football, début réussi pour Paul Puit. Fraîchement nommé sélectionneur des Diables Rouges du Congo, le Belge a gagné son premier match hier face au Niger 1-0 dans une rencontre amicale à Antalya en Turquie. Guim Benza a marqué le seul but du match à la 31e minute. Le MENA signe par la même occasion sa deuxième défaite de suite après celle face à la Gambie 0-2 la semaine dernière. Sanction réduite pour André Onana, gardien de l'Ajax Amsterdam. Le tribunal arbitral du sport a réduit de 12 à 9 mois la suspension infligée à l'international camerounais pour infraction aux règles antidopage, statuant en appel de la décision disciplinaire de l'UEFA. La juridiction sportive a jugé cette sanction mieux proportionnée au manquement du portier puisqu'aucune faute significative ne peut lui être reprochée. Des traces de produits dopants ont été retrouvées dans les urines du joueur de 25 ans le 30 octobre dernier lors d'un contrôle inopiné. Mais l'Ajax a affirmé qu'André Onana s'était senti mal et avait pris un médicament initialement destiné à son épouse. La sanction contre l'international camerounais qui court depuis le 4 février doit désormais s'achever le 3 novembre prochain, précise le TASS. L'Euro débute demain vendredi à Rome dans un stadio olympico rouvert au public pour la première fois depuis plus d'un an. L'Italie lance cette Coupe d'Europe de football face à la Turquie. Après avoir raté la Coupe du Monde en 2018, une première depuis 60 ans, l'Italie a retrouvé du jeu et de la confiance sous les ordres de Roberto Mancini. Les qualifications sans fausse note pour l'Euro, 10 victoires en 10 matchs, puis pour le prochain Final Four de la Ligue des Nations en octobre, ont chassé les fantômes. 24 pays s'affronteront jusqu'au 11 juillet pour la succession du Portugal, vainqueur en 2016 en France. Ici, en NBA, Phoenix a glané une deuxième victoire de rang sur les quatre requises contre Denver lors du deuxième match de leur demi-finale de conférence. Victorieux 123-98 sur leur parquet, les Suns ont gâché la fête de Nikola Jokic, 24 points, 13 rebonds et 6 passes décisives. Désigné mardi meilleur joueur de la saison, le vainqueur de la série affrontera en finale de la conférence Ouest le vainqueur de la demi-finale Utah Clippers et justement le Jazz mène une victoire à zéro.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la ville de Goma et ses environs sont toujours recouverts de cendres volcaniques après l'éruption du Nyiragongo, ce qui continue d'affecter les fruits et légumes plantés dans la région. Les dangers de la cendre volcanique à Goma, c'est un reportage d'Ezekiel Mlopo.
Une végétation couverte de cendres volcaniques. Voilà l'image que présentent les potagers de Goma et ses environs. Judith Kavira cueille quelques légumes. Sa famille est restée à Goma malgré l'éruption.
C'est l'un de nos légumes préférés, mais il est couvert de cendres à cause du volcan. Mais pour bien les consommer, nous devons les laver.
Laver les légumes avant de les préparer ou de les consommer, c'est la recommandation des autorités. Mais l'eau pour ce nettoyage est une denrée rare. Une grande partie de la ville n'est plus approvisionnée en eau depuis plus d'une semaine. Judith fait de son mieux.
Il est très difficile d'accéder à l'eau. Plusieurs personnes la cherchent, mais sans succès. Un bidon d'eau de 20 litres se vend à 500 francs congolais, ce qui est cher. Pourtant, il y a beaucoup de légumes ici, chez nous, qui alimentent la ville de Goma.
La cendre volcanique est très dangereuse pour la santé humaine. Les spécialistes estiment qu'elle peut causer plusieurs lésions dans les poumons et d'autres organes vitaux du corps humain.
Et les corps devraient réagir d'abord par la toux. Si cette cendre-là, plus jamais ça passait par les voies respiratoires. Au niveau des voies respiratoires, il y a ces fils qui constituent d'abord la première barrière. Une fois que cette première barrière est traversée, cela veut dire que ça va progresser. Maintenant, une fois au niveau de la trachée, il y a une réaction inflammatoire locale qui commence pour essayer un peu de ramener les cendres ou les particules à l'extérieur des voies respiratoires. Donc c'est une réaction d'hypersensibilité, mais aussi une réaction inflammatoire locale.
La situation reste déplorable sous les étals du marché central de Virunga. Ici, aucune mesure n'est prise pour couvrir la marchandise. Tout est exposé à la poussière et à la cendre, même si cette vendeuse affirme le contraire.
Moi, je viens de Kibumba pour acheter des légumes. Je suis venu en moto, je les ai mis dans un sac bien couvert pour éviter la cendre volcanique. Ici, la cendre ne peut pas les atteindre car le marché est couvert de tôle, mais par contre, nous les couvrons.
D'après les spécialistes, respirer des cendres volcaniques peut causer des problèmes aux personnes souffrant de troubles respiratoires. C'est pourquoi il est conseillé de respirer à travers un tissu ou un masque et laver systématiquement les légumes avant de les consommer. Yéette Mavinga pour VOA Afrique, Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les dirigeants du G7, le groupe des pays les plus industrialisés, se réunissent en Grande-Bretagne ce week-end. Le COVID-19, le changement climatique et la fiscalité seront à l'ordre du jour. Le reportage d'Henri Ridgwell, correspondant de la VOA à Londres, récit Eric Manirakiza.
Des navires de guerre britanniques patrouillent le long des côtes de Carnoailles. 6500 policiers ont été déployés. La Grande-Bretagne se prépare donc à accueillir les dirigeants du G7. Ce sommet marque aussi le premier voyage à l'étranger de Joe Biden en tant que président des États-Unis. Après 4 années de relations troublées avec l'ancien président Donald Trump, Biden recevra un accueil chaleureux en Europe, estime l'analyste Thomas Klein Brockhoff.
La tentative de rétablir la confiance perdue avec les alliés est au cœur de l'agenda. Et ce message passe haut et fort.
Les cicatrices ne sont pas complètement guéries, selon Klein Brockhoff.
There is a sort of a lingering suspicion that Il y a une sorte de suspicion persistante que Joe Biden pourrait être une aberration, un intermezzo entre deux présidents nationalistes et une Amérique qui a changé pour longtemps.
Les dirigeants du G7 feront aussi preuve d'une grande unité face à de nombreux défis. Selon Creon Butler, ancien conseiller du gouvernement britannique sur le G7, actuellement à Chatham House.
La résistance du Covid est généralement le point principal. Et vous pouvez le voir dans la façon dont le Royaume-Uni présente le sommet.
Boris Johnson, hôte du sommet, s'est engagé à ce que le G7 contribue à vacciner le monde entier d'ici à la fin 2022. Pour l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, il est essentiel de passer de la rhétorique à la réalité.
Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que le G7 de vendredi est une question de vie ou de mort. Sa décision déterminera qui est vacciné et en sécurité et qui reste non vacciné et risque de mourir.
Les dirigeants du G7 vont également discuter de la lutte contre le changement climatique. Le commerce et la fiscalité revêtent aussi un caractère prioritaire pour le sommet. La semaine dernière, les ministres des Finances du G7 ont soutenu un projet de taux d'imposition mondial minimal de 15%. Creon Butler, ancien conseiller du gouvernement britannique sur le G7, actuellement à Chatham House.
Ce point est vraiment révolutionnaire, tout comme l'accord sur le partage des droits d'imposition, qui ne se limite pas à l'endroit où se trouve la domiciliation fiscale de la société, mais s'applique également aux endroits où une société peut avoir des revenus très importants, mais payer très peu d'impôts.
La menace que représentent la Russie et la Chine sera également abordée. L'analyste Thomas Klein Brockhoff du Fonds Marshall allemand des États-Unis.
La question est de savoir si les pays occidentaux peuvent trouver une approche commune vis-à-vis de la Chine et si le président Biden peut obtenir de ses alliés européens le langage et l'engagement dont il a besoin, notamment concernant la politique intérieure, pour que l'investissement qu'il fait dans ses alliances européennes vaille la peine à leurs yeux. C'est à mon avis la grande question.
Plusieurs des dirigeants du G7 se rendront également à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN lundi prochain. Le président Biden doit rencontrer les dirigeants de l'Union européenne mardi. Cette succession de réunions se passe avant le sommet de Joe Biden avec son homologue russe Vladimir Poutine, mercredi prochain à Genève.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afghanistan connaît de plus en plus d'attaques de la part des talibans. 24 provinces sur 36 connaissent des situations de tension. Pour mieux comprendre la situation en Afghanistan, Claire Morin-Gibou a joint le chercheur et spécialiste de ce pays à l'IRIS, Karim Pakzad.
La situation aujourd'hui sur le plan sécuritaire s'aggrave de jour en jour. C'est une situation qui était attendue depuis que Joe Biden avait annoncé une date de retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Donc c'est une situation où aujourd'hui l'Amérique ou les États-Unis ont tiré les conclusions de 20 ans de guerre ingagnable en Afghanistan. On ne peut pas gagner cette guerre d'une façon militaire. Et donc, il faudrait chercher une solution politique. Donc, d'abord, ils ont cherché avec les talibans, d'où l'accord de paix entre les États-Unis et les talibans, il y a un peu plus d'un an, à Doha. Et ensuite, ils ont encouragé des négociations entre les talibans et le gouvernement de Kaboul pour arriver à un accord de paix pour former un gouvernement d'union nationale. Mais le problème est que depuis l'annonce de retrait des troupes américaines qui sera effective d'ici deux mois, les talibans se trouvent dans une situation de force, d'abord sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Bon, sur le plan politique, aujourd'hui, le taliban est reconnu par l'ensemble des pays de la région. Les talibans ont fait voyage à Pékin, à Moscou, à Téhéran, à Islamabad et ailleurs. Et donc, cette victoire sur le plan politique, là, aujourd'hui, ils essayent de le confirmer sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à la progression des talibans sur plusieurs fronts, au nord, à l'est, à l'ouest. La situation est extrêmement compliquée.
Quelles sont les principales difficultés des autorités afghanes aujourd'hui ?
Le gouvernement de Kaboul est confronté à plusieurs sortes de terrorisme. Il n'y a pas que le Taliban, il y a au moins une vingtaine d'autres groupes et organisations terroristes qui sont actifs en Afghanistan. Par exemple, lorsque vous avez entendu un attentat contre une école des jeunes filles à Zahra, à l'ouest de Kaboul, il a été certainement commis par Daesh ou l'État islamique. L'assassinat d'une dizaine de mineurs dans le nord, cela par des inconnus, que pourrait être le fait des organisations terroristes issues de Xinjiang chinois ou de Ouzbékistan, etc. Voilà, ça c'est une réalité extrêmement complexe en Afghanistan qui annonce vraiment une situation beaucoup plus compliquée et beaucoup plus ingérable demain.
Karim Bagzad, spécialiste de l'Afghanistan et chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Burkina encore en deuil après l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2015. Des individus armés ont pris d'assaut le village de Solan dans le nord-est, faisant au moins 160 morts. Un bilan macabre qui vient rappeler que ces groupes sont plus actifs que jamais dans le Sahel, malgré les mesures prises dans ces pays et au niveau régional. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance des groupes djihadistes au Burkina Faso? Quelle réponse face aux groupes armés? Comment sont pris en charge les populations déplacées par l'insécurité? Nous discuterons de tout cela ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA et VOA.
Les variants du virus Covid-19 sont de plus en plus nombreux. Le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, est notamment une source d'inquiétude. Azuma Compaoré a joint un docteur Constantine Chienkou, basé en Virginie.
Un virus est un parasite obligatoire, ça veut dire qu'il doit vivre dans le hôte. Ceci dit, il doit trouver les moyens de s'évader. En virologie, la manière dont on s'évade, c'est en créant des variations. Ces variations, au point technique, s'appellent des mutations. Maintenant, il y a deux types de mutations. Il y a une mutation qu'on appelle le shift et il y a une mutation qu'on appelle le drift. Lorsqu'il y a une mutation qui concerne moins de 5 à 10% du virus, ça s'appelle le shift. Et en général, les mêmes médicaments et les mêmes vaccins vont couvrir entièrement le shift. Il y a ce qu'on appelle le drift. Dans le drift, il y a souvent plus de 15 à 50% de changement dans le système du virus. En général, les vaccins ne le courent pas entièrement, ils ne courent qu'à 50%.
L'OMS a décidé de donner une nouvelle nomenclature à tous ces variants. Le variant Delta, qui est justement qui fait référence à celui originaire d'Inde, est considéré comme l'un des variants les plus dangereux. Pourquoi?
En général, lorsque les virus se mutent, de plus en plus, ils deviennent plus dangereux. Pourquoi? La raison pourquoi le virus se mute, c'est pour survivre. C'est un mode de résistance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle variante, il sera un peu plus difficile que celui qui est apparu avant. Parce que celui qui était avant a été dompté par le système qu'il a vu. Le virus trouve que pour survivre, il faut se muter. C'est comme nous les êtres humains, nous créons des enfants pour pérenniser l'espèce humaine. Pour que le virus se pérennise, il doit se muter.
Le variant Delta est considéré par certains, par les scientifiques britanniques en tout cas, comme étant 40 à 50% plus transmissible que tous les autres variants. Qu'est-ce qui explique la transmissibilité d'un variant par rapport à un autre?
Nous ne savons pas exactement ce qui fait à ce qu'une variante soit plus transmissible que de l'autre. Mais la transmissibilité veut seulement dire que ça peut infecter les gens plus rapidement que d'autres variantes. Mais ce qui est important, c'est la mobilité. Ça veut dire que quoi? C'est la capacité à ces virus de rendre les gens malades. Il peut y avoir une variante qui est très transmissible, mais pas mobile, qui veut dire que ça ne rend pas les gens autant malades que d'autres. C'est l'indice de mobilité que moi, je pense, qui doit être le plus important.
C'était Dr. Constantine Chienkou, basé en Virginie. Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Merci de l'avoir écouté. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.